Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manela Kiza, la présentation de cette édition du vendredi 7 mai 2021. D'abord le sommaire. Dans le sud-est du Nigeria, une dizaine de morts dans une attaque attribuée à des séparatistes du Biafra. Condamnation au Niger du journaliste Moussa Aksar, il doit verser de lourdes amendes. En Tunisie, confinement pour la fin du Ramadan, les mosquées seront fermées. L'OMS déplore les retards dans la vaccination malgré les doses reçues dans de nombreux pays africains. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Attaque meurtrière dans le sud-est du Nigeria. 10 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées et plusieurs étudiants enlevés dans une région théâtre de tensions séparatistes croissantes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Des hommes armés ont pris d'assaut hier jeudi le poste de police d'Obosi dans l'état d'Anambra. Les policiers ont riposté et 2 d'entre eux ont perdu la vie, selon le porte-parole de la police, qui ajoute qu'une enquête est en cours pour identifier les auteurs. Les assaillants ont également mis le feu à une partie du poste et à 2 véhicules avant de prendre la fuite. Dans un incident séparé, les forces de sécurité ont repoussé une attaque contre le poste de police d'Orlou dans l'état voisin d'Imo, toujours selon la police. 8 assaillants ont été tués, a affirmé une source policière locale, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Le sud-est du Nigeria connaît une recrudescence d'attaques visant les forces de sécurité que les autorités attribuent à des membres de l'IPOB, un groupe qui milite pour l'indépendance du Biafra. Dans un autre incident, dans cette même région du sud-est nigérian, cette fois dans l'état d'Abia, des étudiants et des passagers d'un bus ont été enlevés par des inconnus armés mercredi.
Blaise Compaoré, ex-président du Burkina Faso, s'est entretenu hier à Abidjan avec le ministre de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, venu le voir pour poser les bases de la réconciliation avec en toile de fond un procès sur l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara. La rencontre a eu lieu dans la plus grande discrétion. Un cadre du CDP, le parti fondé par Blaise Compaoré, a déclaré que les échanges ont porté sur la question de la réconciliation nationale et bien entendu des conditions du retour de M. Compaoré à Ouagadougou. Il a rappelé que ce retour était une promesse du président Roch Marc Christian Kabore pendant sa campagne électorale de novembre 2020. Quelques 17 500 personnes ont fui leur foyer au Burkina Faso ces 10 derniers jours après une série d'attaques qui ont fait au moins 45 morts selon l'OHCR. Ces déplacés ont d'urgence besoin de nourriture, d'abri, d'eau potable et de soins selon l'agence onusienne dont l'action dans certaines zones est limitée par l'insécurité. Au Niger, le journaliste Aksar Moussa, auteur de l'enquête qui a révélé les malversations financières dans le secteur de la défense, a été condamné ce matin par un juge à verser 200 000 et 1 million de francs CFA d'amende et de dommages au profit d'un plaignant. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
L'avocat du journaliste Moussa Aksar a indiqué leur intention d'interjeter appel de la décision du juge du 3e arrondissement communal de la ville de Niamey, maître Ahmed Maman.
Cette décision ne rend pas service au droit et également pour ces faits, nous sommes tenus d'interjeter appel dans cette affaire pour qu'on puisse en débattre devant la cour d'appel et pour que le droit soit dit. On croyait que notre client allait être déclaré non coupable. Mais malheureusement, ce matin, quand le tribunal vidait sa saisine, a reconnu la culpabilité de notre client pour ces faits, et avec une peine d'amende de 200 000 francs, CFA, également une condamnation en dommage intérêt au profit du plaignant d'un montant de 1 million de francs, CFA.
Pour rappel, c'est dans un article intitulé « FinSign Files, malversation au ministère nigérien de la Défense, ce sont 11,8 milliards de francs CFA captés par des seigneurs du faux » que Moussa Aksar a démontré comment des hauts responsables de l'armée et certains proches du pouvoir sont impliqués dans le détournement de fonds destinés à l'acquisition de matériel militaire. Dans le cadre d'une enquête pilotée par le Consortium international des journalistes d'investigation, dont le journaliste Moussa Aksar est membre, Abdelaziz Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le prêtre franco-rwandais Marcel Hitayezu, mis en examen en France mi-avril pour son rôle présumé lors du massacre de Tutsis réfugiés dans son église en 1994 et incarcéré, a été libéré mercredi sous contrôle judiciaire. Marcel Hitayezu, né en 1956, avait été interpellé à son domicile de Charente-Maritime et mis en examen le 14 avril pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. L'opposant malgache Hari Laurent Rajasson, incarcéré depuis 10 mois, a vu sa condamnation confirmée vendredi en appel pour complicité d'organisation de manifestations non autorisées autour de critiques contre un remède miracle anti-Covid promu par le chef de l'État Henri Rajoel. Les avocats de M. Rajasson avaient qualifié son procès de règlement de compte politique. En Tunisie, le Premier ministre Hichem Mechichi a annoncé un confinement la semaine prochaine en pleine fête de fin du Ramadan. Claire Morin-Gibourg.
Le chef du gouvernement a annoncé un confinement du 9 au 16 mai car la Tunisie traverse la pire crise sanitaire de son histoire. Le Premier ministre Hichem Mechichi a souligné qu'il y a une centaine de décès par jour, que les médecins sont à bout de nerfs et que les établissements de santé menacent de s'écrouler. Plus de 500 personnes sont en soins intensifs. Cet afflux de malades dans les hôpitaux a contraint le gouvernement à annoncer un confinement pour les traditionnelles fêtes de l'Aïd el-Kébir, la fin du Ramadan. Les rassemblements sont interdits et le couvre-feu est avancé à 19h. Les mosquées, les marchés et les commerces non essentiels seront fermés et les déplacements interdits entre les régions du pays. Après un premier confinement de 2 mois en 2020 et un recul historique du PIB, M. Mechichi avait plusieurs fois répété que le pays n'avait pas les moyens de mettre en place une nouvelle quarantaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est un républicain proche de l'ancien président Donald Trump, a signé jeudi une loi électorale limitant le vote par correspondance. Ses détracteurs l'accusent de cibler les minorités. Les précisions de John Lindon.
La loi impose d'avoir une pièce d'identité pour voter par courrier, réduit la disponibilité des boîtes aux lettres où sont déposés ces bulletins et interdit l'utilisation de fonds privés pour financer les dépenses électorales. Ron DeSantis a paraphé la loi à Palm Beach, non loin de la résidence de l'ex-président à Mar-a-Lago, lors d'un événement retransmis en exclusivité sur la chaîne Fox News. La loi permettra de garantir que les votes des Floridiens soient enregistrés dans l'intégrité et la transparence, a affirmé le gouverneur. Ses détracteurs considèrent que le texte, approuvé la semaine dernière par les parlementaires de Floride, limite l'accès aux urnes. Cette loi crée des barrières et des obstacles qui ont un impact sur tous les électeurs de Floride et affectent de manière disproportionnée la capacité des électeurs noirs, latinos et handicapés à voter, a dénoncé la N2ACP, l'une des plus grandes organisations de défense des droits civiques des Noirs.
Le Britannique Boris Johnson s'est félicité vendredi de premiers résultats très encourageants pour les conservateurs qui ont remporté un nouveau bastion travailliste dans le nord-est de l'Angleterre lors de l'élection locale cruciale. Ce super jeudi d'élection locale avait valeur de test pour le pouvoir et l'unité du Royaume-Uni avec le renouvellement aussi du Parlement écossais où les nationalistes entendent bien pousser leur cause en cas de victoire. La pandémie de coronavirus a décéléré cette semaine dans toutes les régions du monde, sauf en Asie, en raison d'une flambée en Inde et chez ses voisins. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Plus de 789 000 contaminations ont été enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, une baisse de moins de 4%, une première depuis 10 semaines. Seule l'Asie connaît une accélération dans le sillage de l'Inde, qui a enregistré plus de 385 000 cas par jour. La pandémie ralentit surtout en Afrique, moins de 25%. Les Seychelles et les Maldives sont parmi les pays les plus avancés en termes de vaccination. Aux Seychelles, plus de 60% de la population est complètement vaccinée. Les autorités britanniques ont recommandé de limiter l'usage du vaccin d'AstraZeneca ou plus de 40 ans après le signalement de 242 cas de caillots sanguins, dont 49 décès.
Le président français Emmanuel Macron a appelé vendredi les anglo-saxons à arrêter de bloquer les exportations de vaccins et des ingrédients nécessaires pour les produire, ce qui permettrait de renforcer la solidarité vaccinale mondiale. Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
Le bénéfice après impôt des serveurs à Abidjan spécialisés dans le ravitaillement des avions a connu une baisse de 547 millions de francs CFA en 2020 comparé aux chiffres de 2019. Ce bénéfice est passé de plus de 1500 milliards de francs CFA en 2019 à 985 millions de francs CFA un an plus tard, soit une baisse de 35%. Air Sénégal va assurer une nouvelle liaison Dakar-Washington via New York à raison de 2 fréquences par semaine dès le 2 septembre prochain. Air Sénégal sera la seule compagnie africaine à effectuer des vols directs et réguliers entre les États-Unis et le Sénégal. Les vols seront assurés par Airbus A330neo, un aéronef ultra moderne doté des commodités des dernières générations. L'économie américaine a ajouté que 266 000 emplois en avril, bien moins que les prévisions qui tablaient sur 1 million d'emplois le mois dernier. Le taux de chômage est lui passé à 6,1% en avril contre 6% un mois plus tôt. Il s'agit de la plus lente amélioration concernant les emplois depuis janvier. À noter que les travailleurs à faible revenu, les femmes, les hispaniques et les noirs ont été les plus touchés par les licenciements dus à la pandémie et des millions de personnes sont toujours sans emploi.
Nous passons directement à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La finale de la Ligue Europa le 26 mai à Gdańsk en Pologne opposera Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly à Villarreal du Nigérian Samuel Chukwueze. Après 2 demi-finales retour hier à Rome et à Londres, 3-2 pour l'AS Rome contre les Red Devils pour l'honneur. Après la débâcle des Italiens à Old Trafford, 6-2, 0-0 entre Arsenal et Villarreal qui avaient gagné 2-1 en Espagne la semaine dernière. Cette finale sera un moment inédit pour les joueurs du sous-marin jaune et leur entraîneur Unai Emery, grand spécialiste de la Ligue Europa qui l'a gagné 3 fois. Les Red Devils, eux, ont remporté la Ligue Europa en 2017 avec José Mourinho aux commandes. Athlétisme, la personne la plus âgée du monde, une femme japonaise de 118 ans, ne participera pas finalement au relais de la flamme olympique des JO de Tokyo. Kane Tanaka, qui habite à Fukuoka, dans le sud du Japon, avait prévu de porter la torche sur son fauteuil roulant lors du passage du relais dans sa ville mardi. Mais sa famille a finalement annoncé qu'elle ne participerait pas à la manifestation car la propagation du coronavirus n'a pas été contenue. À moins de 80 jours des JO de Tokyo, le gouvernement a prolongé l'état d'urgence dans 4 départements, dont celui de Tokyo. Les organisateurs des Jeux olympiques assurent que les JO prévus du 23 juillet au 8 août se dérouleront en toute sécurité, malgré les sondages montrant l'opposition d'une large majorité de la population. Ici, en NBA, les Mavericks s'offrent les Nets pendant que les Lakers galèrent. Bagasikoura.
Le champion en titre est décidément en grande difficulté en fin de cette saison régulière. En l'absence de LeBron James blessé à la cheville, les Lakers se sont inclinés 118 à 94 contre les Clippers. De son côté, Dallas a infligé aux Nets leur 4e défaite d'affilée, 113 à 109, malgré 45 points de Kyrie Irving. La mauvaise série continue ainsi pour Brooklyn de Kevin Durant, pas dans un grand soir, 20 points et 9 rebonds. Golden State a grimpé au 8e rang à l'ouest à la faveur de son succès 118 à 97 sur Oklahoma City. Les Warriors devancent Memphis, défait à Détroit 111 à 97. Les Wizards y sont presque grâce à leur importante victoire après prolongation face à Toronto, tombé 131 à 129. Malgré les 44 points, 11 rebonds et 7 passes du Camerounais Pascal Siakam, Chicago s'est donné le droit de rester encore mathématiquement dans la course des barrages en battant Charlotte 120 à 99. Indiana a assuré l'essentiel en venant à bout d'Atlanta 133-126.
Bagasikoura, merci.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'OMS affirme qu'environ la moitié des 37 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 reçues en Afrique ont été administrées. Les premières livraisons à 41 pays africains par le canal du COVAX ont eu lieu depuis début mars, mais 9 pays ont administré moins d'un quart des doses reçues et 15 pays ont utilisé moins de la moitié de leurs doses, déplore l'organisation. Rosine Munezero a joint à Brazzaville le docteur Richard Mihingo du bureau régional pour l'Afrique de l'OMS.
Nous n'avons pas réellement de cas où les vaccins sont jetés, mais plutôt des cas où certains pays effectivement sont dans une certaine inhabilité d'utiliser les vaccins qu'ils ont pour le moment. Donc je voudrais également rappeler le fait que l'initiative COVAX, qui est coordonnée par l'OMS, vise en effet à rendre accessible aux pays d'une manière équitable des vaccins pour couvrir au moins 20% de la population dans ces différents pays. Alors nous avons certainement trouvé des situations où certains pays se sont retrouvés, ce qui est plutôt la minorité, dans l'incapacité d'utiliser les doses disponibles à leur niveau et d'essayer effectivement de redistribuer ces vaccins dans d'autres pays pour que ces vaccins soient utilisés dans les meilleurs délais et qu'elles ne puissent pas être gaspillées.
Pourquoi COVAX n'a pas anticipé cela?
Non, et d'ailleurs l'OMS et l'UNICEF et les autres partenaires au niveau des pays, nous avons dans un premier temps appuyé les pays à ce qu'ils puissent avoir des plans bien détaillés, des micro-plans pour le déploiement des vaccins dès qu'ils seraient disponibles. Et je dois vous dire que de manière générale, nous sommes extrêmement satisfaits parce que la plupart des pays qui ont reçu ces vaccins ont effectivement immédiatement démarré à la vaccination deux ou trois jours après l'arrivée des vaccins. C'est le cas du Ghana par exemple, et de la Côte d'Ivoire, du Ghana en particulier, qui était le premier pays en Afrique à recevoir les vaccins de COVAX et qui a le 24 février dernier, qui a commencé sa vaccination le 1er mars. Et à la date d'aujourd'hui, toutes les doses COVAX qui ont été distribuées au Ghana ont été complètement utilisées.
Concrètement, quelles sont les mesures qui sont prises pour s'assurer que les prochains vaccins soient bien utilisés?
Alors ça, c'est une très très bonne question. Effectivement, nous voulons éviter effectivement qu'il y ait un gâchis, c'est-à-dire où des vaccins pourraient arriver dans un pays et ne pas être utilisés. La première chose, la plus importante, c'est d'être sûr d'abord que le pays a les capacités logistiques pour accueillir tous ces vaccins dans les bonnes conditions. Nous travaillons pour être sûr que la chaîne de froid est bien en place pour immédiatement conserver les vaccins dans des conditions optimales. La deuxième chose, c'est de s'assurer que les coûts opérationnels pour les déploiements de ces vaccins sont disponibles, c'est-à-dire que l'argent pour faciliter les déploiements de ces vaccins, c'est ce qui a semblé manquer à un ou deux pays dont vous faisiez allusion et retarder ainsi un but de campagne de vaccination. Troisièmement, travailler avec les pays pour qu'il y ait une bonne sensibilisation des communautés afin que les vaccins, une fois déployés, puissent être utilisés par le plus grand nombre possible.
Docteur Richard Mihingo du Bureau régional pour l'Afrique de l'OMS, joint à Brazzaville. La ménopause, étape obligatoire dans le vieillissement de la femme, au Sénégal et en Afrique en général, sa prise en charge est restée marginale et on ne parle presque jamais de ce sujet tabou. Le reportage à Dakar d'Alison Lekogo Fernandez.
C'est un motif de consultation très rare. Au Sénégal, peu de femmes se rendent chez des professionnels de santé pour obtenir une prise en charge des troubles liés à la ménopause. Pour en comprendre les raisons, le professeur Abdulaziz Diouf, gynécologue, a mené une recherche à ce sujet en 2008 dans le cadre de sa thèse.
On s'est rendu compte que l'âge de la survenue de la ménopause était inférieur aux 48 ans, donc inférieur à par exemple à la population de race caucasienne qui est environ 50 ans. 51 ans. Mais par contre, les symptômes, vraiment, on avait vu que toutes les femmes avaient présenté une ménopause troublée.
Migraines, douleurs articulaires, insomnie, perte de cheveux, prise de poids, sécheresse vaginale, les symptômes sont multiples et varient d'une femme à l'autre. Ils apparaissent pendant la périménopause, autrement dit la période qui précède l'arrêt total des règles. Madeleine Sarr est sage-femme, elle a 53 ans.
La phase de transition, c'est la période la plus dure. Parce que là, il y a l'irritabilité, les sautes d'humeur, les bouffées de chaleur. Tu ne comprends pas les manifestations cliniques qui se passent dans ton corps. C'est juste que tu es là, tu te dis que c'est une maladie qui s'installe, alors que c'est une période qui est primordiale dans la vie d'une femme.
C'est son expérience, davantage que sa formation, qui a permis à Madeleine Sarr d'acquérir des connaissances sur la ménopause. Dans un pays où les moins de 20 ans représentent 55% de la population, les cursus de formation sont davantage orientés vers la prise en charge de la mère et de l'enfant. Et de manière générale, la ménopause est un sujet dont on parle peu en société.
Les femmes ne sont pas informées. La plupart des femmes ne connaissent pas ce que c'est que la ménopause. C'est arrivé en consultation qu'on essaie de faire avec eux un entretien, les expliquer les métamorphoses et les manifestations cliniques.
Madeleine leur apporte une écoute attentive, un soutien psychologique. Car la ménopause est une étape redoutée par de nombreuses femmes, et pas seulement pour des raisons physiologiques.
Elles ont une définition psychosociale de la ménopause. Cette définition psychosociale, c'est que voilà, il y a une perte, donc il y a un arrêt des règles. Et du moment qu'il y a un arrêt des règles, donc on n'a plus d'enfants, donc on change de situation sociale au sein de la famille.
La perte de fécondité peut alors entraîner une crise existentielle, une dépression. Une minorité de femmes déclare en revanche vivre la ménopause comme une libération. Alison Lekogo-Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, les éleveurs et vendeurs de poulets appellent les autorités nationales et européennes à assouplir les restrictions commerciales mises en place en raison de la pandémie de coronavirus et de la grippe aviaire. Les prix du poulet ont plus que doublé. Les agriculteurs affirment que les limites de transport en Europe ont réduit le nombre de poussins importés et des œufs à couver, tandis que le Cameroun a interdit le commerce après une épidémie de grippe aviaire en décembre qui s'est atténuée depuis. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, récit Claire Morin-Gibourg.
À Yaoundé, des dizaines de vendeurs de poulet se sont assis par terre pendant une heure en signe de protestation lundi au marché de Vogue Ada. Ces vendeurs affirment qu'ils étaient 300 l'an dernier, mais seulement 25 d'entre eux sont restés en activité depuis janvier. Mère célibataire de 33 ans, Patricia Lamou est une vendeuse de poulets. Pour elle, nourrir et payer l'éducation de ses enfants est devenu difficile.
Depuis que Corona a commencé, on a barré tous les frontières. C'est les gens de l'extérieur qui nous fournissent les œufs pour éclore les poussins. Et comme c'est barré, on ne peut pas donc avoir suffisamment des œufs pour éclore les poussins ici.
Les vendeurs de poulets implorent les autorités des deux côtés de lever les restrictions qui créent une pénurie et font grimper les prix dans la région. Depuis janvier, 1,5 kg de poulet est passé de 5 à 12 dollars au Cameroun et a atteint jusqu'à 15 dollars en Guinée équatoriale et au Gabon voisin qui importe du Cameroun. L'association interprofessionnelle des éleveurs de volailles du Cameroun affirme que la production régionale ne peut pas répondre à la demande. Le groupe affirme que les États d'Afrique centrale peuvent fournir moins de 20 millions des 150 millions de poulets nécessaires au Cameroun, en République centrafricaine, en Guinée équatoriale et au Gabon. Selon le président de l'association, François Djonou, la pénurie s'est aggravée lorsque le virus de la grippe aviaire a commencé à se propager en Europe.
Il y a une pénurie sur le marché parce que depuis mars 2020, avec la crise du Covid, il y a une réduction drastique des vols commerciaux entre l'Europe et le Cameroun. Et comme je le disais, c'est l'Europe qui est notre principal pourvoyeur en intrants agricoles. Avec ces réductions des vols, nous ne pouvions pas importer des parentaux. Depuis l'Europe, ça a donc créé une pénurie dans les scènes parentales. Et en novembre dernier, la grippe aviaire est venue aggraver la situation, ce qui nous dit donc le manque de poulet sur le marché. Nous ne pouvons pas importer des produits de ces pays, justement dans le but de protéger notre production locale. Parce que si nous avons la grippe, vous imaginez les conséquences.
Le groupe basé à Yaoundé affirme que la situation a contraint plus d'un tiers des 45 000 petits et grands producteurs et vendeurs de poulets d'Afrique centrale à la faillite. En novembre, la Commission européenne a signalé que plusieurs pays européens avaient des flambées de grippe aviaire. Une maladie très contagieuse pouvant entraîner la mort chez les oiseaux et les hommes. Le Cameroun a interdit l'importation de poussins et d'œufs à couver en provenance d'Europe par mesure de précaution. Denise Abanda, fonctionnaire du ministère camerounais de l'élevage, révèle que son pays négocie pour importer des œufs et des poussins du Brésil.
L'importation de poussins et d'œufs du Brésil peut être justifiée par le fait que le secteur national de la volaille, qui importe des poussins et des œufs d'Europe, a des difficultés à approvisionner le marché local en poussins d'un jour. La décision du ministère est donc de trouver un autre partenaire brésilien pour approvisionner le marché local.
Le Brésil est le premier exportateur mondial de volailles et le troisième producteur de viande de poulet, après les États-Unis et la Chine.
Selon une étude, les Togolais ne sont pas très portés sur les applications mobiles locales car ces dernières ne répondent pas vraiment à leurs besoins. Dans le pays, quelques applications séduisent. Les applications Made in Togo et leur perception par la population dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kaïl Hosson. Le récit est de Lionel Runanila Gahima.
L'utilisation des applications Made in Togo se limite à quelques domaines précis. Ce sont les résultats d'un sondage réalisé sur les applications mobiles et web développées et utilisées au Togo qui l'indiquent. Emefak Pegba est le responsable de e-Technopole.
Les Togolais utilisent certaines applications togolaises qu'ils jugent utiles aux besoins. Donc en gros, il y a les transports, il y a les logistiques, il y a les banques et finances, assurances, santé aussi.
Dans le domaine de la santé, cette jeune mère de deux enfants, Marthe Farr, a un coup de cœur pour une application.
J'utilise surtout l'application Santé Plus parce que chaque fois il fallait aller sur internet, taper quelles sont les pharmacies de garde. Vu que j'ai une assurance santé, quel hôpital, quelle pharmacie était conventionnée ou non. En tout cas, Santé Plus, ça a été une découverte pour moi et je ne m'en passe plus.
Le top des applications utilisées au Togo est dans le secteur de transport, comme nous le dit Shalom Sanvi, utilisatrice de l'appli Gozan.
Je suis très habituée à l'application Gozim, l'application de transport. Voilà, ça facilite aujourd'hui le transport. Je peux être ici maintenant, je prends mon portable, je commande Gozim. Voilà, ils viennent me chercher pour faire mes courses et tout. Bon, on peut dire un peu que c'est le Uber togolais en fait.
Ce développeur d'application nous édifie sur quelques aspects qui concourent au succès d'une application sous nos cieux. Pour Seti Afanou, qui a fondé Digital Inspiration, certains aspects favorisent le succès des applis togolaises.
Le succès d'une application réside en fait dans l'ergonomie de l'application, la valeur ajoutée de l'application aussi et aussi la convivialité de l'application. Mais sans oublier aussi la manière dont l'application gère les ressources matérielles. Si l'application est très gourmande en termes de ressources internet, ça peut aussi bloquer tes utilisateurs à vraiment l'adopter.
Les Togolais ont des exigences en termes d'application. De nouveau, Emefa Begba.
Les Togolais veulent bien utiliser des applications qui leur rendent service et moins gourmand en data et en stockage.
Le constat relevé par ce sondage est qu'il n'y a pas assez d'applications made in Togo qui répondent spécifiquement aux vrais besoins des Togolais.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagno, Joselle Morissin, Lionel Anania Gaïma et Michel Claire-Joseph. Eric Manelakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.